national des procureurs généraux sur les narcotiques et les drogues dangereuses.
Pour combattre efficacement ce fléau, il faut que chacun d'entre nous essaie de concevoir et d'imaginer ce qui se déroule dans l'esprit envoûté des toxicomanes. Par exemple, un toxicomane sous l'empire des drogues appelle le mégot un roach, un cafard, disons. Car il y voit un genre de cafard. Or, ce genre de comparaison morbide...
Putain, mais de quoi il parle, ce con-là? Il faut être raide à l'acide pour trouver qu'un joueur ressemble à un cafard. Tu te merdes.
Tous les lundis, à 21h, sur Radio Canu.
Cannabis Circus.
Cannabis Circus.
Cannabis Circus, bonjour à tous, bonjour à toutes. Vous êtes bien sur Radio Canu, 102.2 MHz, la plus rebelle des radios.
Bonsoir.
Et ben donc, on va vous faire l'émission du cirque du collectif d'information et du recherche cannabique. Une association ancienne.
Oui, depuis une vingtaine d'années, qui milite pour un changement de législation sur le cannabis et les drogues également. Voilà, et qui tous les lundis soirs depuis 23 ans anime ce créneau horaire pour l'émission Cannabis Circus que vous écoutez ce soir, avec ce soir une actualité particulièrement chargée.
Ouais, tout à fait, avec des petites brèves, avec des joueurs de la NBA qui se
recyclent en businessman du cannabis aux États-Unis avec Cliff Robinson.
Voilà, avec l'Italie qui évolue, avec des pneumologues qui se réveillent.
Enfin, un surtout.
Un, oui, surtout.
Je sais pas les autres ce qu'ils en pensent, mais.
Et puis, des différentes études sur les effets complexes du cannabis et du tabac. Donc, ça revient un petit peu à ce que disait le pneumologue avant. Donc, on reviendra un peu là-dessus. Différentes études aussi qui reviennent sur le cannabis et le QI. Est-ce que fumer du cannabis rend plus bête ou est-ce que ça rend plus intelligent? A priori, c'est pas aussi simple que ça. Et il y aurait beaucoup d'autres facteurs qui rentreraient en ligne de compte. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que le plus mauvais pour le cerveau et pour tout, c'est l'alcool. Ensuite, un très grand article belge dont on viendra dessus. Et alors lui aussi, beaucoup de réflexions sur l'addiction et sur le pourquoi certaines personnes tombent addictes d'une drogue. Et avec une conclusion, le contraire de l'addiction, c'est la connexion. Bref, on reviendra là-dessus, mais c'est assez phénoménal. En tout cas, le contexte social ferait beaucoup plus pour que quelqu'un devienne accro ou dépendant d'une drogue plutôt que le produit lui-même. Voilà, après je sais pas si on parlera de Pécresse, ça s'en vaut pas beaucoup la peine.
Je pense qu'on peut juste en parler très très vite.
Qu'on n'aura pas le temps.
Oui, c'est vrai qu'il y a des articles plus intéressants.
Et sinon, on finira sans doute sur le FBI qui a des problèmes pour recruter ses hackers, parce que beaucoup de hackers fument, et comme le FBI ne veut pas recruter de fumeurs, elle n'arrive pas à s'en sortir. Elle est encore sur des modes de recrutement des années 40, alors qu'on est au 21e siècle. Mais néanmoins, ils commencent à assouplir un petit peu.
Ils vont changer, c'est obligatoire. Ils n'ont pas le choix, parce que les gens compétents, visiblement, n'ont pas ce qui se dit dans l'article. Sont des amateurs du cannabis, donc ils vont bien devoir changer. Hein.
Voilà, donc au lieu de... Avant, il fallait être abstinent depuis 3 ans pour pouvoir aller au FBI. Maintenant, même si on a fumé la veille, on peut être recruté. Mais par contre, il est toujours interdit de fumer quand on est au FBI. Mais ouais, bon, ça, là aussi, ils vont peut-être FBI, évoluer encore un peu. Voilà un petit peu pour ce sommaire. Voilà, on vous a parlé de ce petit article qui vient enfin, parce que je suis sûr qu'on n'arrivera pas au bout. Je nous connais, on parle beaucoup et voilà. Une petite chose à rajouter avant que l'on mette un tout petit peu de musique pour commencer.
Bah, c'est pour ça que j'avais mis en début de revue de presse justement cet article du Figaro Sport. Là, on va pas développer, ça vaut pas le coup, mais voilà, juste pour dire que en tout cas... parce que c'est cet exemple-là qui est relaté, il y en a certainement d'autres, mais en tout cas, voilà, ce basketteur ancien champion de basket, hein, des années plutôt il y a 10 ans ou 20 ans, un joueur qui jouait avant pour une équipe de Portland, mais il a joué dans d'autres équipes, bref. Et donc voilà, il est à la retraite depuis...
Depuis pas très très longtemps.
Depuis 2007.
Ouais, à peu près, oui.
Donc ça fait 9 ans, et en tout cas, il a décidé de se recycler. Voilà ce qu'il dit. En tout cas, l'Oregon a toujours été reconnu pour la qualité de son cannabis, et c'est le bon moment pour se lancer. Le cannabis, pour lui, ça présente beaucoup d'avantages. C'est sans aucun doute une alternative plus positive aux produits pharmaceutiques, dit-il. Ces derniers sont synthétiques, alors que je parle de quelque chose de naturel capable de vous donner les bienfaits que vous recherchez, que ce soit pour les tensions musculaires, la relaxation ou en prévention.
Voilà, et voilà. Il en sait quelque chose pour la décontraction musculaire, puisqu'a priori, il a été suspendu plusieurs fois pour usage de cannabis
durant les années 90. Voilà.
Allez,
musique, et on revient tout de suite après.
Ça, on vient de s'écouter donc Greg Serrato, Holy Smokes. Et donc, nous allons
commencer
par l'Italie. L'Italie, voilà. Qui dépénalise partiellement la culture du cannabis, c'est sur iTélé que c'est passé.
Oui, ça a été relaté par un ou deux autres médias. J'ai pris que celui-là, il me semblait que c'était l'article plus complet d'ailleurs. Mais bon, après, on peut passer des heures dessus. Qu'est-ce qui change concrètement? Ce qui change, c'est que les personnes qui cultivent qui auront eu l'autorisation de cultiver du cannabis à des fins thérapeutiques seront plus poursuivies, si j'ai bien compris.
Ah, c'est pas tout à fait ça.
Pas tout à fait.
Ils ont fait un petit peu le même truc que nous a fait Taubira avec ça. Sa loi, ils ont essayé de dépénaliser une série
prisons,
de petits délits.
Ouais.
Et donc, entre autres, un délit pour ceux qui cultivent de l'herbe sur leur terrasse. Maintenant, ils rendent une sanction administrative plutôt qu'une sanction pénale. Voilà, et cela d'autant plus... D'autant plus que ceux qui l'utilisent pour des fins thérapeutiques et qui ont l'autorisation de cultiver. Voilà, mais n'empêche que ceux qui n'ont pas l'autorisation spéciale de cultiver à des fins thérapeutiques resteront passibles d'une peine pouvant aller jusqu'à 1 an de prison et 4 millions d'euros d'amende. Ce qui reste quand même pas mal. Voilà, donc... sinon, c'est une réforme qui vise surtout à désengorger le système pénal, hein, un petit peu la même chose qu'elle nous a fait Taubira il n'y a pas longtemps, quand le fait de fumer pour un primo-délinquant est considéré comme un simple délit passible d'une amende et non plus d'un crime comme ça l'était avant. Voilà, et donc... voilà, il y a plein de petites choses qui suppriment comme ça. Donc, entre autres, les infractions administratives pour conduite sans permis, les injures, les actes obscènes, les abus de crédulité populaire, les falsifications de documents, etc., passent dans le domaine administratif plutôt que rester dans le domaine pénal. Et ils ont aussi quand même aboli le délit d'immigration clandestine. Voilà, donc un petit peu de choses là-dessus. Voilà, donc sur le cannabis, ça n'a pas fait beaucoup de vagues, puisque ça reste quand même très très limité. Hein. C'est juste donc... juste pour les utilisateurs de cannabis thérapeutique, hein, et pour réduire un petit peu le fait de faire pousser quelques plants chez soi. Voilà. Mais n'empêche que pour l'article, c'est peut-être le premier pas vers une dépénalisation à plus ou moins court terme en Italie.
Oui, ben, on verra.
Il y en a qui se préparent en tout cas pour...
Oui, il y en a qui sont en avance, ouais, effectivement. Ouais.
Pour ça. Donc on va voir comment ça se passe. Hein. Alors c'est vrai qu'avec ce qui va se passer à l'ONU cette année, peut-être que ça évoluera rapidement dans certains pays, peut-être même en France, bien que avec nos politiques assez débiles, il y a peu de chances que cela évolue.
Bah, pas tout de suite en tout cas, c'est sûr. Hein. Pas tout de suite, on enchaîne ?
On enchaîne, voilà, avec le pneumologue.
Eh oui, je pense qu'il faut absolument s'attarder sur cet article. On en a déjà un peu parlé, on en a parlé la semaine dernière. Mais alors là, carrément une méga tribune dans The Huffington Post, intitulée ni plus ni moins « Pourquoi les pneumologues sont les mieux placés pour ouvrir le débat sur le cannabis ?» Effectivement, ils sont pas trop mal placés. Bon, il n'y a pas qu'eux qui sont bien placés. Mais en tout cas, alors, ce qui est intéressant, c'est quand même que ce pneumologue, M. Dotzenberg, qui s'exprime, tient ses propos. C'est ça qui est intéressant. À ma connaissance, je ne me rappelle pas avoir entendu d'autres propos émanant de pneumologues par le passé, ou jusqu'à très récemment. Ni pour ni contre, hein. Enfin lui il n'est pas pour, hein, d'ailleurs il demande juste un changement de législation. Bref, je ne pense pas qu'il soit représentatif non plus de tous les pneumologues français.
Ouais, mais qu'a priori c'est quand même une question qui va être débattue dans un congrès de la pneumologie qui va se tenir fin janvier. Donc,
La semaine prochaine, à la fin de la semaine
à Lille.
En fait. Voilà. À partir de samedi je crois, ce vendredi.
Voilà, donc,
de vendredi à lundi.
Il rappelle un peu ce qui se passe en France. Hein. 17 millions de Français ont déjà expérimenté le cannabis, donc presque 1 sur 3. 4,6 sont consommateurs, une fois dans l'année donc. Et 1,4 million en consomment plus de 10 fois par mois, selon l'OFDT.
Alors, tous ces chiffres sont hyper sous-estimés déjà, il faut quand même le rappeler, même si... on va faire avec eux.
Voilà, et on rappelle que les jeunes Français consomment majoritairement de la résine de cannabis mélangée à du tabac sous forme de joint, une forme de cannabis particulièrement nocive du point de vue du pneumologue en question.
Voilà. Là aussi, il y a des fautes d'orthographe, même dans Huffington Post.
C'est peut-être la traduction aussi. Hein.
La traduction de quoi ? C'est un jeu. C'est Monsieur Dotzenberg est un pneumologue français. Et qui c'est qui a traduit du français au français ?
D'accord.
Non, voilà, il y a juste des petites erreurs de frappe, des fautes d'orthographe. Ça arrive même dans des journaux. Compignon sur rue, voilà.
Voilà, donc qu'est-ce qu'il raconte surtout, c'est qu'a priori, les gens qui utilisent du cannabis avec du tabac, ils pensent que là, quoi, il explique que la fumée est 6 fois plus chargée en particules et en monoxyde de carbone qu'une cigarette de tabac. Et donc, ça provoquerait des effets neurologiques du cannabis, des infections respiratoires, des bronchopathies chroniques obstructives. Voilà.
Des atteintes du poumon profond et des cancers du poumon, bien évidemment, malheureusement.
Voilà. Donc, il rappelle que aux États-Unis, par contre, le cannabis ou la marijuana plutôt est plutôt utilisé seul sans tabac. Et de plus en plus, aux États-Unis, les gens l'utilisent avec des vaporisateurs. Ce qui est beaucoup mieux, a priori, pour les poumons.
Voilà, mais bon, un peu plus loin, il dit que même aux États-Unis, où on consomme un peu sans tabac, souvent, après avoir fumé un joint, ils fument une clope. Donc, ouais. Alors je sais pas si c'est là ou c'est dans l'autre article là, qui parle des effets du cannabis et du tabac, bref.
Tout donc, à fait. Donc, après, il rappelle qu'en France, c'est quand même très paradoxal, puisque plus la législation sur un produit est répressive, plus on consomme, plus l'on consomme ce produit, et donc ça prouve l'inefficacité de lois comme ça. Donc, les grandes preuves, c'est la grande prohibition de l'alcool aux États-Unis dans les années 30. Ou en France, en 2016, où la prohibition totale du cannabis n'empêche pas qu'il soit dans le peloton de tête des pays utilisateurs.
Ah, merci à M. Dotzenberg de faire ce parallèle avec la prohibition de l'alcool aux États-Unis. Merci. Est-ce que franchement...
Voilà, et c'est pour lui, il dit que c'est... Voilà, il rappelle qu'aux Pays-Bas, où la législation est plus souple, pourtant, les jeunes fument beaucoup mieux, beaucoup moins. et surtout parce que ça permet donc des actions de prévention chez les jeunes ou en milieu de travail, qui sont grandement générées par le statut et qui seront grandement gênées en France par le statut illégal du cannabis. Voilà, et en plus en France, on peut ajouter aussi les effets collatéraux liés au trafic de ce marché qui se chiffre en milliards d'euros et qui mine la vie sociale de nombreux quartiers. Voilà, donc il rappelle que le débat de santé publique est difficile, surtout depuis la loi de 1970, surtout avec l'article 34-21-4, s'il ne le cite pas, mais c'est celui-là qui empêche de parler de façon objective. Il est interdit de dire que le cannabis, c'est bon. Donc, du coup, l'objectivité du débat est beaucoup plus compliquée. Bref, lui, il espère qu'on va arriver à un changement de législation. Il nous faudrait une Simone Veil.
Il est très lucide, ce monsieur. Ça. Il est très lucide et il a bien compris qu'il y avait un problème avec nos politiciens.
Voilà,
il faut quelqu'un qui ait un sacré charisme et qui soit super déterminé.
Voilà, parce qu'il dit que ce n'est pas un problème ni de droite ni de gauche. Et en plus, il accuse en plus les médias qui cherchent en fait la critique de l'adversaire politique pour faire le buzz. Donc, tant qu'on a cette bipolarité droite-gauche assez débile et assez surfaite, et qu'en plus on a des journalistes qui essayent de jouer et de faire du buzz et de faire des scoops, eh ben, on n'y arrivera pas. Voilà, donc il rappelle qu'en France, grâce justement aux politiques de réduction des risques et grâce à un encadrement très très fort et une bonne prévention, on fume 50% moins de tabac qu'avant et 25% moins d'alcool par habitant qu'il y a donc 25 ans depuis le moment de la loi Evin. Voilà, c'est deux drogues légales encadrées de façon pragmatique par la législation. Permettent donc cette baisse, alors que la consommation de cannabis, qui est totalement prohibée en France, a augmenté de 20%. Voilà, alors après...
Après, il donne des conseils.
Il donne des conseils, voilà.
C'est intéressant. Ouais.
Alors, je ne sais pas, il faudrait que j'aille chercher cet article 21 de la directive 214/40 de l'UE.
2014.
Voilà, qui essaye de donner de nouvelles herbes à fumer.
Enfin, qui donne, oui, qui informe sur justement des plantes qui pourraient être fumées et qui pourraient remplacer le tabac. Alors ça, c'est vraiment de la bonne réduction des risques. Des plantes apparemment qui peuvent être achetées très rapidement sur Internet ou même parfois chez certains herboristes. Ça, c'est intéressant. Donc on peut mélanger la résine, hein, si je comprends bien, avec ces plantes, mais même l'herbe en elle-même, les fleurs en elles-mêmes. Lui, il propose même de... Enfin, ce qu'il propose au final, c'est d'enlever le cannabis, en fait, des joints. D'enlever le tabac des joints.
Voilà, pour enlever la dépendance nicotinique.
Eh oui, parce que ça surajoute déjà éventuellement au cannabis lui-même, quoi. Il parle également des systèmes de vaporisation.
Tout à fait.
Donc en fait, voilà, si on gradue en fait et qu'on vous ne pouvez pas vous empêcher de fumer des cigarettes au cannabis, mais vous pouvez faire un effort et donc réduire le risque. Enlevez le tabac, mettez telle et telle plante. Voilà, vous ne pouvez pas. Si vous arrivez à vous passer du fait de fumer, mais vous voulez quand même toujours continuer à utiliser du cannabis. Vous pouvez éventuellement arrêter de fumer quelque chose et vous pouvez passer à la vaporisation plutôt qu'au joint, ainsi de suite. Donc il a vraiment une réflexion très RDR, effectivement, et c'est intéressant. Et pour le coup, c'est rafraîchissant, quoi, parce que je crois que j'ai jamais lu un truc comme ça en France. Hein. Voilà. Alors là, où il parle des vaporisateurs ou des choses qui rassemblent à des...
Des e-cigarettes.
Des e-cigarettes, ouais. Donc voilà, comme technique de réduction des risques. Il parle après, je ne sais pas si tu as quelque chose à ajouter, moi je n'ai pas grand-chose à détailler là-dessus. Il parle un peu après du cannabis de synthèse, des quelques 130 cannabinoïdes de synthèse avec, pour certains d'entre eux justement, comme il dit, des effets psychotiques puissants et que ça peut poser problème. Certains d'entre eux agissent sur des récepteurs du cannabis, donc les CB1, les CB2, qu'une partie de ces cannabinoïdes sont en vente libre et d'autres sont interdits, et que du coup, c'est difficile de tracer et de savoir tous les cannabinoïdes qui sont et interdits ou qui circulent. En tout cas, voilà ce qu'il dit. En l'état actuel des connaissances, on ne peut que déconseiller ces produits. Voilà. Mais il dit aussi, il est possible que dans le futur, certains apparaissent comme des produits de réduction des risques, par une prise en vaporisation, par exemple. Donc on ne sait pas, encore une fois. Bon, il y en a, c'est visiblement établi que c'est des produits dangereux et qu'il faut les éviter. Mais il y en a d'autres qu'on ne connaît pas, et peut-être que dans l'avenir, certains deviendront des produits intéressants, en termes de réduction des risques. Ou de... Voilà, enfin, c'est intéressant.
En tout cas, donc, ils vont discuter de tout ça au congrès de pneumologie, donc on vous en parlera sans doute
la semaine prochaine ou dans 15 jours. Oui.
Et il dit, à côté des effets neurologiques, la consommation de cannabis a des effets respiratoires liés à la fumée, infection, BPCO, donc bronchite pulmonaire et cancer, et favorise les rechutes du tabagisme liées à la co-consommation de nicotine. Alors, dans leur position, ils rappellent que ces effets peuvent être supprimés ou réduits par d'autres modes de consommation. Et pour le pneumologue, le joint de résine de cannabis associé au tabac est la méthode la plus nocive de consommation du cannabis et pourtant la plus répandue en France. Voilà, donc il rappelle la consommation de résine avec des plantes à fumer ou de la consommation de marijuana sans tabac supprime le surrisque de rechute pour la dépendance nicotinique. Il rappelle donc tout ce qu'on a dit
sur la
sur la vaporisation, voilà. Pardon. Et donc, sur les cannabis de synthèse, donc pour l'instant, des connaissances insuffisantes là-dessus. Et il conclut que par l'état actuel des connaissances, les médecins ne peuvent que recommander de ne pas utiliser ces produits. Voilà, en partie ces produits étant les cannabis de synthèse. Et puis un autre article qui vient de Senseicide, là, et qui est un petit peu...
un peu dans la même veine, on va dire.
Voilà, qui explique les effets complexes de la nicotine lorsqu'il est mélangé au cannabis. Donc, il rappelle que depuis des siècles, le tabac et le cannabis entretiennent une relation étrange, pleine de turbulences. Pourquoi autant de gens les utilisent ensemble ? Se pose-t-il comme question ? Et dans le monde scientifique des cannabinoïdes, la réponse est des plus étranges. Donc, constat, le tabac et le cannabis sont souvent consommés ensemble. A priori, 70% des consommateurs de cannabis utilisent du tabac, hein, ça c'est un fait. Et même en Amérique du Nord, où le cannabis est traditionnellement fumé pur, des fumeurs ajoutent du tabac à leur joint. Et même certains fument une cigarette juste après leur joint pour... voilà. Donc il y aurait des effets synergiques entre le tabac et le cannabis pour accroître les effets.
Et voire même, ils disent hein, que selon certains, le mélange, l'ajout du tabac avec le cannabis, ça potentialise ou ça accroît les effets du cannabis.
Oui. Ouais, alors, l'effet le plus souvent rapporté au sujet du mélange cannabis-tabac est une intensification du height. Bien que certains ressentent le contraire. Donc, comme quoi, c'est assez, assez compliqué. En tout cas, aujourd'hui, beaucoup de gens disent qu'il y a quand même une association entre les deux. En effet, au fur et à mesure que nous approfondissons nos connaissances de tous les systèmes interdépendants de récompenses, de manque et de besoins, d'addiction et de satiété, on comprend de plus en plus à quel point l'activité cérébrale est indissociable de l'activité corporelle. Et voilà. Et que les deux jouent un peu ensemble. Le tabac et le cannabis. Les deux jouent sur l'hippocampe. Donc l'hippocampe est une des aires cérébrales
dans le cerveau
hein, qui sert à le quartier général du système interdépendant de stimuli des récompenses et d'addiction.
Comme c'est bien dit. Bravo.
Alors là-dessus aussi, hein, quand on lit l'article, il faudrait le lire dans le détail parce que il avance dans un sens puis dans l'autre.
Ouais, parce que c'est pas si clair et et ça va pas que dans une direction. C'est pour ça que c'est compliqué. Voilà, moi, je trouve que c'est ça qu'il faut retenir surtout. Après, effectivement, si tu veux lire tout dans le détail, ça va être long, mais. C'est très intéressant, je pense qu'il y a quelques passages qu'on peut lire.
Voilà, l'hippocampe, donc c'est aussi la région cérébrale liée à la mémoire. Dans des études, on considère qu'il peut y avoir différents facteurs, incluant le rapport THC-CBD.
Un ratio.
Qui là aussi fait en sorte qu'on travaille plus sur... quoique ça améliore d'un côté, de l'autre côté, ça a des effets négatifs. Donc c'est justement le bon pourcentage entre les deux qui pourrait être bien. Il y a aussi les consommateurs de cannabis pur, parce que c'est pareil, la nicotine joue aussi sur l'hippocampe. Donc c'est toujours très difficile de savoir qui c'est qui fait le plus. Et il faut prendre des groupes témoins de fumeurs de tabac, un groupe témoin de fumeurs d'herbes pures, un groupe témoin qui mélange les deux, et puis voir la différence. Bref, en tout cas, chez les consommateurs de cannabis pur, une corrélation a été établie entre la taille réduite de l'hippocampe et une mémoire affaiblie. Ce qui n'est pas très très étonnant, puisque une bonne mémoire est normalement associée à un hippocampe en santé de taille normale. Voilà, mais donc plus dans ceux qui fumaient que de l'herbe pure, plus la taille de l'hippocampe était réduite, plus la mémoire était efficace.
Affectée.
Était affectée, voilà, pardon. D'un autre côté, quand on testait les gens qui fumaient du cannabis et du tabac, l'hippocampe, le volume de l'hippocampe était un petit peu réduit, mais par contre, la mémoire était accrue.
Donc c'est l'inverse de ce qu'ils avaient découvert précédemment avec des consommateurs qui ne fumaient que du cannabis pur.
Voilà.
Ça déroute quand même. Hein.
C'est très très déroutant. Voilà, est-ce qu'il y a des corrélations, des liens de causalité? Voilà, c'est très très difficile de voir exactement, de faire d'enregistrer des évolutions et de trouver des groupes vraiment et de vraiment classifier les choses. Hein. En tout cas, tout ce qu'on a noté, c'est que pour les fumeurs de cannabis et de tabac, il y a un effet inhabituel qui n'a pas encore été expliqué.
Voilà, donc il y a encore des recherches à mener. Hein.
Voilà, après, bon...
Ils ne savent pas tout non plus, ils n'arrivent pas tout à savoir d'un coup en faisant une étude. Et visiblement, il n'y a pas non plus 36 études qui ont été faites, il faut refaire les études. Voilà, bon, bref, du coup, c'est ça la science.
Hein. Et il rappelle aussi qu'il y a des relations entre les principaux systèmes de régulation et de signalisation. Et donc, du coup, maintenant... Il semblerait que le tabac, le cannabis et d'autres psychotropes tels les opiacés ont tous en lien les uns avec les autres dans un complexe réseau de stimuli et de récompenses dont les rouages sont essentiellement contrôlés par l'hippocampe. Donc en tout cas, lui, il met bien les choses, ça se tiendrait bien au centre du cerveau. Mais d'autant plus que dans l'hippocampe, il y a les zones, il y a beaucoup de CB1 et de CB2, donc des récepteurs du cannabis, mais pas que. Il y a aussi les agonistes, donc les molécules activatrices des trois types de récepteurs, les plus connus étant, voilà. C'est assez difficile de résumer un article aussi complexe et volumineux. En tout cas, bref, même les substances qui n'activent pas les récepteurs sont intéressantes puisqu'elles exercent une action contraire. Donc c'est là qu'on revient aussi au rapport THC-CBD de tout à l'heure. Après, on se pose donc la relation entre ces systèmes est-elle si étroite ? Donc a priori, oui, il y a des liens d'interdépendance entre tous les systèmes. Entre les récepteurs d'opiacés qui sont aussi possiblement cannabinoïdes et qui sont aussi des récepteurs nicotiniques. Non, ce n'est pas les mêmes, mais par contre, ils ont aussi des relations. C'est pour ça, sans doute, que les effets d'un joint avec du tabac et du cannabis auraient des effets plus puissants que de l'herbe pure. Qu'est-ce qu'on peut dire en tout cas
Moi, j'aimerais bien, si ça ne te dérange pas, parce que ça devient c'est de plus en plus technique, je te propose qu'on passe aux deux derniers paragraphes, en fait, qui, à mon avis, sont ceux qui sont les plus intéressants. Enfin, les autres sont très intéressants, mais...
Juste pour conclure la partie très technique, finalement, si le facteur génétique pourrait également être impliqué dans toutes ces interactions, des variations dans certains gènes. Donc serait associé dans la susceptibilité d'être dépendant à la nicotine. Et alors cette association a été établie sur des sujets blancs de sexe féminin et non de sexe masculin. Donc voilà, là aussi il y aurait des changements et des façons de recevoir les produits différentes selon le sexe. Bon,
ça c'est les encore origines ethniques.
Et selon les origines ethniques, mais ça, c'est pas encore sûr. Hein. C'était plutôt selon le sexe, là.
Ouais. Alors, moi, je pense quand même que, voilà, il faut aller...
Alors, que faut-il en comprendre ?
Il faut aller à la fin, oui, parce que c'est à la fin que c'est intéressant, en fait. Enfin, c'est pas que c'est pas intéressant avant, mais bon, bref. Alors, je vais vous le lire, tel quel, ce que disent, en fait, les chercheurs. Il y en a un qui dit comme ça: nous commençons cependant à admettre l'existence d'une telle complexité et à réaliser que la recherche sur l'usage ou l'abus de substances et sur les maladies psychiatriques ne peut pas se faire en vase clos. Par exemple, écoutez bien, nous ne pouvons plus pointer du doigt le cannabis et le blâmer de causer à lui seul des psychoses, maintenant qu'on savons qu'une foule d'autres facteurs, tels l'usage de nicotine, sont ainsi en jeu. Voilà, par exemple, et un peu plus loin, toujours dans ce même article, On a souvent négligé de considérer l'usage du tabac dans les recherches sur les effets cognitifs et psychiatriques du cannabis, malgré le fait que l'on sait que la nicotine est une substance psychotrope, importante. Cette omission est d'autant plus flagrante lorsque l'on considère la grande incidence de tabagisme chez les personnes qui souffrent de conditions psychiatriques incluant la schizophrénie. Effectivement, une récente étude s'est finalement attaquée à ce sujet et a trouvé sans grande surprise que la nicotine était étroitement liée à l'apparition de psychose. L'auteur de l'étude, James McCabe du King's College de Londres, a officiellement déclaré, je cite, qu'il serait même possible que le réel coupable soit la nicotine et non le cannabis. Alors ça, c'est quelque chose. La nicotine est généralement néfaste pour la santé et devrait donc être évitée. Cependant, nous pouvons dériver d'importantes connaissances au sujet de l'interrelation des systèmes cérébraux de signalement et de récompense en comparant des groupes de consommateurs de nicotine et de consommateurs de cannabis avec des groupes de consommateurs de cannabis-tabac. Et à partir de ces résultats, ainsi que d'autres recherches, nous savons maintenant que les systèmes endocannabinoïdes sont largement impliqués dans la régulation des stimuli et des récompenses et qu'ils jouent un énorme rôle dans le phénomène d'addiction à des substances telles la nicotine et la morphine. Voilà. On s'écoute un peu de musique, mais juste avant. Vas-y. Ce que je voulais, c'était donner les références de l'article et le site internet, parce que je pense que c'est un article qui vaut vraiment le coup d'être lu. Donc je vous invite à vous rendre sur internet. Vous tapez http://sensicides.com/fr/blog/les effets complexes de la nicotine lorsqu'elle est mélangée au cannabis. Sinon, vous allez sur le site de sensicides.com, vous tapez relation ou effets complexes nicotine-cannabis et vous tomberez sur l'article. Celle qui a écrit l'article, c'est Chata, c'est son pseudo sur le site de Sensicides. Voilà, je vous invite à vous rendre directement sur internet, consulter le site et le lire dans son intégralité. Parce que je pense que ça vaut le coup.
Ouais, juste, tant qu'on y était, je voulais juste faire un petit passage sur un article sur lequel on va peut-être venir tout à l'heure, mais peut-être pas, qui est l'article belge assez complexe. Et dans cet article, il y a un point sur la dépendance et sur différentes études. Vous saviez, il y a dans les années 70, ou il y a très longtemps, ils avaient pris des rats et ils lui mettaient deux points d'eau. Un avec de l'eau pure et l'autre avec de l'eau avec de l'héroïne ou de la cocaïne. Et très rapidement, les rats se mettaient à prendre que l'eau avec de la cocaïne ou avec l'héroïne jusqu'à en mourir. Et donc, ils disaient que c'était mauvais. Et là, un chercheur a eu une idée géniale, ou assez différente. Il disait, mais pourquoi ce pauvre rat, il a que ça, quoi. Il a que ça à boire. Donc, on va faire autre chose. Et il a dit qu'on va utiliser une cage plus agréable avec du fromage, des jeux, des congénères. Et on va aussi leur donner le choix entre les deux mêmes bouteilles d'eau. Et là, le résultat de l'expérience change. Alors, drastiquement, la plupart des rats n'apprécient pas l'eau mélangée à la drogue et aucun d'entre eux ne l'utilise compulsivement. Il n'y a aucune overdose dans ces nouvelles cages. Voilà, donc c'est juste pour dire que le facteur, l'environnement. L'environnement, les facteurs sociaux
conditionnent pour un produit psychotrope. Tout simplement.
Oui, ou plutôt quelqu'un qui s'ennuie ou qui a des problèmes va beaucoup plus là-dedans. C'est ce qu'on a vu avec en Afghanistan quand il y avait les talibans, entre autres. L'utilisation des opiacés avait grandement augmenté à cette époque-là. Je pense que, de nouveau, ça doit grandement augmenter. Mais bon, ça, c'est un autre débat. Voilà, mais on va partir un petit peu en musique et puis on revient avec tous nos articles.
Just give me one more sniffle, another sniffle of that dope. Just give me one more sniffle, another sniffle. more money than Henry Ford or John D. ever had. I bit a dog last Monday, and 40 doggone dogs went mad. Feels like a fighting rooster, feeling better.
Ouais, on espère que vous êtes toujours avec nous à l'antenne et que vous n'êtes pas sauvé en courant après cette formidable musique.
Avec Victoria Spivey, Dope Head Blues.
Voilà, du blues comme on n'en fait plus.
Eh ouais, comme on en fera plus jamais. Tête.
C'est clair que, voilà, un morceau authentique, inédit, que vous n'entendrez nulle part ailleurs, c'est évident.
Alors, on reste toujours un peu dans les mêmes sujets avec le Huffington Post. Le cannabis fait baisser le QI. Point d'interrogation, c'est un peu plus compliqué. Voilà, s'il n'y a pas de preuves, ça ne signifie pas que c'est faux. D'accord, mais alors, je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a un moment, il y avait une étude qui était un petit peu ambiguë, et donc il y avait plein de journaux, qui, surtout les journaux de droite, qui avaient bourré le crâne à tout le monde en disant que le cannabis faisait baisser le QI. Ce qui n'était d'ailleurs pas aussi franc dans l'étude.
Oui, c'est ce que disent les journalistes. Entre ce que disent les journalistes, comment ils comprennent et qu'ils interprètent, et ensuite la ligne éditoriale du journal, bon... Finalement, la recherche passe au second plan et les nuances n'existent plus. Voilà. Donc là, c'est pas mal là, cet article. Alors, ça a fait couler pas mal d'encre hein, la semaine dernière dans la presse. Là, on a un article du Huffington Post, un autre de Pourquoi Docteur. Hein, j'ai sélectionné ces deux, mais il y en avait d'autres. D'autres articles en parlaient. Bon, je trouvais que c'était un peu moins complet. Alors, quand on entend ça, le fait que ça ferait baisser le QI, non, c'est pas si compliqué. Il faut quand même se rendre compte que derrière, il y a une étude, l'étude qui a été faite pour pouvoir dire ça, c'est une étude quand même qui tient la route, parce qu'elle a quand même suivi 2235 jeunes britanniques nés en 91 et 92. Donc 2235, quand on fait une étude comme ça sur une cohorte aussi importante, c'est quand même une étude qui tient plus que la route, quoi. Faut quand même le dire. Donc c'est pas, on a fait une petite étude sur une dizaine de personnes et on dit, finalement, attention, non, là, 2235, voilà. Et puis, sur ces 2235, il y a des histoires de jumeaux aussi, si je me rappelle bien. 290 paires de jumeaux dans les 2235.
Voilà, donc certains qui fument, d'autres qui fument pas.
Voilà.
Alors par contre, il y a une chose que toutes ces études ont montré, le seul facteur qui a pu faire chuter le quotient intellectuel est la consommation d'alcool dans cette tranche d'âge.
Ah mais ça c'est marrant, je suis même pas surpris.
Bah ouais, non mais il faut le rappeler quand même, il faut le rappeler. Parce
je crois
même
que l'alcool c'était bon pour la santé vu que c'est illégal.
J'ai fait le test avec des étudiants en médecine il n'y a pas si longtemps, justement on parlait cannabis évidemment.
Quoi, t'as fait boire les étudiants?
Et donc ils me disaient, ouais le cannabis c'est mauvais pour le cerveau dans les jeunes, pour les jeunes adolescents. En plus là-bas en médecine ils se cuitent. Vas-y, hein?
Bah, ah bon?
Ils boivent pas mal.
Ils vont être médecins, ils sont
et
pas
donc j'aurais
santé,
dit, mais attendez, vous avant de commencer à dire des trucs sur le cannabis dont on n'est même pas sûr, allez voir sur l'alcool, là vous verrez, c'est écrit noir sur blanc, l'alcool c'est terrible pour le cerveau, surtout pour les adolescents. Et ils sont allés voir, et effectivement, c'était déjà dit, et donc là c'est quand même un rappel qu'il faut faire. La drogue la plus mauvaise pour le cerveau des adolescents, c'est l'alcool. Le cannabis, c'est sans doute pas très bon pour le cerveau des adolescents. Pour, comme toutes les drogues, pour un cerveau en formation, ce n'est pas forcément bon. Voilà, mais... Donc, c'est déjà la première chose. Ensuite, qu'est-ce qu'elles disent un peu... un peu toutes ces études, qu'est-ce qu'elles montrent? C'est qu'a priori, c'est pas aussi simple que ça. Qu'il y a d'autres facteurs qui interviennent hein, pour ces jeunes qui perdent du QI.
Je trouve ça dingue qu'on soit encore à
donc comme à la consommation d'alcool, de tabac, la santé mentale et le contexte socio-économique peut aussi expliquer la perturbation du développement cognitif de ces jeunes.
Oh bah ça alors.
Voilà, donc certains jeunes à l'adolescente baissent leur QI, mais c'est pas forcément ça. La question, c'est certains savoir si les jeunes adolescents qui fument beaucoup ne seraient pas prédisposés à la stagnation intellectuelle et que le fait de fumer n'améliore pas les choses, mais ne la dégrade pas.
C'est
plus.
Pas ça qui est déterminant en fait.
Voilà, donc c'est la question des drogues. Hein. C'est le cannabis, c'est une drogue comme toutes les autres. L'alcool, la nicotine, le café, il existe des risques et des bénéfices à sa consommation. Exagérer l'étendue de ces risques et bénéfices ne va pas aider à créer des législations plus intelligentes. Voilà, donc...
Non, c'est... En France, on sait que c'est même l'inverse. Quoi. C'est même là qu'on fait les législations les plus mauvaises. Quoi.
Voilà, et toujours en allant dans le même sens, surtout l'étude qui va avec les jumeaux, puisque là, on a quand même des gens quasiment identiques, avec les mêmes gènes, les mêmes capacités intellectuelles au début. Et ben grâce à ça, on arrive à aller quand même un petit peu contre l'idée reçue que le cannabis rempète. Hein. Surtout qu'aux États-Unis actuellement, je ne sais pas si vous avez entendu parler d'un Donald Trump qui lui fait de la lutte contre la consommation du cannabis un axe majeur de sa campagne. Donc
ouais, voilà. Lui, c'est un peu une espèce de Marine Le Pen états-unien, quoi. Hein, faut le dire. Hein.
Ouais, c'est voilà. Mais bon, bref. Donc, en tout cas, revenons en tout cas sur cette étude scientifique sur les comparatifs entre les jumeaux. Et ce qui est le plus intéressant, c'est quand il y avait deux jumeaux dont un fumait et l'autre ne fumait pas. Et les résultats, peu importe la cohorte, l'étude aboutit à la même conclusion, expliquent les chercheurs. Ils n'ont trouvé aucune preuve que la consommation de marijuana chez les adolescents conduit à un déclin de l'intelligence et donc au QI. L'après-ajustement avec une gamme de facteurs confondants, comme la santé maternelle, la santé mentale, la prise d'autres substances, les chercheurs ont constaté que la consommation de cannabis à l'âge de 15 ans n'entraîne pas de score inférieur de QI chez les adolescents, ou même de moins bonnes performances scolaires. Ils ont même trouvé que des jumeaux ont même perdu 4 points de QI au cours de l'étude, et le frère et les sœurs jumeaux, certains abstinents et certains non, ont montré la même tendance similaire de déclin. D'où ce qu'on disait au début, ou dans l'article précédent, sur une certaine...
Déterminisme génétique
ouais. pour dire que le QI va baisser à partir plus jeune ou moins jeune selon les personnes.
Voilà. Alors il y a un des principaux auteurs de l'étude, la Nicholas Jackson, qui dit clairement, ses résultats suggèrent qu'ici, la baisse de l'acuité mentale était due à autre chose que le cannabis, tout simplement.
Voilà. Et donc les données amènent à croire que le QI, donc la baisse de QI, serait liée à autre chose. La consommation de cannabis à des niveaux faibles ne constitue donc pas en soi un lien causal avec la déficience cognitive ni avec des trajectoires de vie dégradées, a conclu donc l'équipe de chercheurs. Voilà, donc ça va un petit peu à l'encontre des articles très... très négatif.
Ouais. Alors, juste, je me rappelle plus si tu as cité cette phrase d'un des chercheurs aussi qui dit qu'en fait, ce qu'il faut chercher, c'est chercher à savoir si des enfants qui seraient prédisposés à une stagnation intellectuelle en primaire seraient par la suite plus enclins à une consommation future de cannabis. Voilà. Alors ça, c'est une vraie bonne question qu'on s'est encore pas posée, mais qu'on ne risquait pas de se poser avant de s'apercevoir de ça. Et du coup, vu que maintenant on sait ça et que on voit que chez des jumeaux, ceux qui fument, ceux qui fument pas, finalement on observe des diminutions du niveau de QI, forcément on est obligé de se poser de nouvelles questions pour rechercher un peu plus loin. Voilà, tout simplement.
Voilà, on arrive sur un grand article, je pense que c'est sur celui-là qu'on va s'arrêter.
Ouais, tu penses pas qu'on puisse en parler.
Le Soir belge qui s'intitule « Vers la fin de la prohibition des drogues ».
Point d'interrogation.
Donc, qui a été mis en ligne le 18
dernier.
Janvier, voilà. Donc, il travaille un petit peu là-dessus, il rappelle que la drogue fait partie intégrante de la culture populaire. Puisqu'elle inspire les chansons qu'on écoute, les films que l'on regarde, les fracas magnifiques, des envolées réjouissantes, etc., etc. Alors avec des films qui en font un peu l'apologie, des films qui au contraire vont mettre les utilisateurs de drogue, quelles qu'elles soient, plus bas que terre. Bref, en tout cas, grâce à la culture, c'est résumé toute l'ambiguïté de la condition du consommateur de drogue dans nos sociétés, entre fascination et dégoût. En tout cas, il rappelle que la prohibition depuis un siècle n'a quasiment pas changé, et que, c'est surtout Antoine Boucher dont on entend beaucoup parler dans cet article, qui explique qu'on n'empêchera pourtant jamais l'homme d'utiliser ces substances, et surtout qu'elles sont utilisées depuis des millénaires. Ça, c'est moi qui le rajoute.
L'article est super long, alors je sais pas comment.
La prohibition est inefficace, on le sait. Ce que ça a donné avec l'interdit de l'alcool aux États-Unis, on en a déjà parlé tout à l'heure.
Il y a des belles citations.
C'est Antoine Boucher qui dit ça. Il rappelle les gens ont continué à consommer, c'était simplement plus dangereux car ils fabriquaient eux-mêmes le produit. Résultat de l'alcool frelaté qui a fait beaucoup de dégâts et la création de mafias de gangs organisés qui ont repris en main le commerce de l'alcool. C'est exactement ce qu'on constate aujourd'hui avec la drogue. Quand on vit dans l'économie clandestine sans aucun contrôle de qualité possible. Et d'ailleurs, il pose même la question. Imaginez-vous, et ça c'est une question à poser à nos détracteurs, imaginez-vous consommer aujourd'hui une boisson alcoolisée sans connaître le volume d'alcool contenu dans votre bouteille. C'est pourtant ce qui se passe quand on consomme des stupéfiants. On ne peut pas savoir le taux de substance active contenue dans la dose absorbée. Voilà, avec la politique de répression actuelle, on ne protège pas les citoyens, mais
on ne les responsabilise pas non plus. Ouais.
Voilà, on ne leur permet pas de les faire grandir intellectuellement. C'est pourtant à eux de décider ce qu'ils veulent pour leur vie en tant qu'adultes responsables.
Ah, ça fait plaisir de lire ça, c'est génial.
Voilà, en plus il rappelle que punir ne sert à rien, quand on sanctionne les consommateurs, on les désocialise, on les déstructure encore plus, ce qui est dramatique car l'usage de drogue est parfois lié à un mal-être, à une difficulté à faire face à certains événements. Au lieu de soutenir des personnes déjà fragiles, on les enfonce. Voilà, bon après il rappelle tout ce qui se passe au niveau de la légalisation dans le monde... avec l'Espagne en 2003 qui a commencé à légaliser l'usage médical, avec tous les États américains qui l'ont fait aussi, avec l'État du Colorado qui a commencé à autoriser un usage récréatif, puis l'Uruguay, puis maintenant tous les autres États américains. Bref, si le mouvement est lent, le changement instauré par ces nouvelles lois est quant à lui irréversible. Pour la première fois en un siècle, la prohibition perd un peu de son ampleur. Dans les pays où la prévention, dans les pays où le cannabis est devenu légal, les politiques de santé publique se sont améliorées grâce notamment à des messages de prévention impossibles à imaginer dans des pays où la drogue est interdite. Cela permet de faire sauter le tabou, d'en parler. Aujourd'hui, beaucoup de parents se sentent légitimes pour évoquer la consommation d'alcool avec leurs enfants, mais n'osent pas aborder le sujet de drogue avec eux et encore moins parler de leur propre consommation. Donc
tu parlais de quelqu'un là qui s'exprimait dans l'article, mais là dans beaucoup de choses que tu as citées, c'est un psychiatre qui s'appelle Serge Zombeck.
Voilà, tout à fait.
Voilà, un psychiatre, eh oui,
c'est pareil, surprenant aussi. Les deux sont cités à tour de rôle, donc c'est souvent donc ce Serge Zombeck en effet, ou alors Antoine Boucher.
Voilà.
Voilà, donc il y a deux poids deux mesures, hein, les drogues. Qui ont rencontré des problèmes et qui ont quand même été autorisés, comme l'alcool et le tabac. Ils sont même présents dans les supermarchés, mais ça, c'est en Belgique. Hein, voilà, donc, et il rappelle comme si l'alcool ou le tabac ne tuait pas, donc s'interroge Serge Zombeck. Donc voilà. Les héroïnes et d'autres opiacés sont bien moins dangereux pour la santé physique que l'alcool, qui détruit les cellules jusqu'à arriver à la cirrhose dans certains cas les plus extrêmes. Bref, les produits sont dangereux car du fait de leur interdiction, on ne peut les réglementer. Voilà. Bon, l'alcool et le tabac sont évidemment toxiques, mais grâce à une réglementation forte, on arrive à mieux gérer les choses. Alors pourquoi ça a été interdit ? Donc deux explications, l'une parce que...
plusieurs, pas que deux.
Quoi, surtout deux mises en exergue dans l'article.
Très rapidement, il dit tout. Hein. Vas-y.
Il dit que c'en est une, un petit peu des raisons racistes. Hein,
ouais, voilà, ouais.
Pour attaquer les Mexicains qui utilisaient la marijuana.
Pour stigmatiser les Noirs, les joueurs de jazz. Alors ça c'est pas dit, mais bon.
Voilà, ou les Chinois qui faisaient commerce de l'héroïne.
De l'opium.
Et l'autre explication serait que l'industrie pharmaceutique, qui commence à se développer à l'époque et au début de la prohibition, voit d'un mauvais œil l'utilisation de certains remèdes naturels. Voilà.
Et puis enfin, ce qui est très intéressant aussi, c'est que chacun a sa drogue, le Nord a sa drogue, le Sud a ses drogues, et il y a cette conception que les pays du Nord ne devraient pas utiliser les drogues des pays du Sud et vice-versa.
Voilà, et après ils finissent par la dépendance et donc par l'expérience dont j'ai parlé tout à l'heure sur les rats et sur l'environnement des rats, donc des rats qui sont dans une cage vide, et auraient tendance à déprimer et donc à utiliser des produits stupéfiants jusqu'à en mourir, alors que ceux qui sont dans un environnement beaucoup plus sympathique ne tomberaient pas dans ces problèmes-là.
Voilà, il donne un exemple très simple, hein, c'est l'exemple des gens qui sont hospitalisés et à qui on prescrit... pour pas souffrir de la diamorphine, qui est en fait de l'héroïne, d'une héroïne de très très bonne qualité. Mais il nous dit clairement, si ce qu'on nous dit sur l'addiction est vrai, je suis supposé devenir dépendant après mon séjour à l'hôpital. Et pour autant, c'est pas le cas, sinon ça se saurait. Voilà, un très bon exemple également.
Voilà, et puis je vais arriver sur la conclusion. Si nos vies ressemblaient de plus en plus à des cages vides, est-ce que notre propre faute, ou faut-il élargir le spectre d'analyse ? Pénaliser individuellement le seul consommateur de drogue, est-ce une logique compatible avec ce que l'on souhaite construire collectivement en tant que groupe ? Voilà, des questions auxquelles il est difficile de trouver une réponse unique. Et là, Johan Harry termine. Au lieu de menacer les liens que le dépendant possède, attitude que l'on a depuis un siècle, il faudrait les renforcer. Je ne dis pas que c'est facile, mais j'essaye maintenant de faire comprendre à tous mes proches dépendants que je tiens à approfondir ma relation avec eux. J'essaye de leur dire que je les aime, peu importe qu'ils se droguent ou pas, peu importe l'état dans lequel ils sont et que s'ils ont besoin de moi, je serai près d'eux. Ils ne seront pas seuls. Ça fait 100 ans maintenant que nous avons déclaré la guerre aux dépendants. Nous aurions dû les aimer à la place. Le contraire de l'addiction n'est pas la sobriété. Le contraire de l'addiction, c'est la connexion.
Voilà. Super article que vous pouvez retrouver et consulter dans son intégralité. On va devoir se quitter, donc très vite. Donc c'est dans le soir.be, un journal belge, http://www.lesoir.be, le soir tout attaché. L'article s'appelle « Vers la fin de la prohibition des drogues » point d'interrogation de Camille Werners. L'article de lundi 18 janvier dernier. Voilà, « Vers la fin de la prohibition des drogues », lesoir.be. Voilà, c'est là-dessus que nous allons nous quitter. C'est là-dessus que se termine Cannabis Circus, l'émission du Cirque Lyon. Le Cirque Lyon que vous pouvez contacter par téléphone au 06 11 53 10 07, je vais très vite. Le Cirque Lyon à qui vous pouvez écrire Cirque Lyon BP 93 043 69 605, Villeurbanne CEDEX, cirque-lyon@no-log.org, www.cirque-lyon.fr, c'est sur internet et aussi sur Facebook. Voilà, c'est terminé.
Allez, ciao, ciao, à bientôt, à la semaine prochaine.
À la semaine prochaine, au revoir.